il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde. Je citerai simplement deux noms. L'un est d'une personne morte. Je veux parler de Simone Weil. L'autre est notre plus grand poète français, selon moi. Je veux dire René Char.
Ça peut pas faire de mal.
Qui est pour moi non seulement un poète, un grand poète et un écrivain d'immense talent, mais qui est pour moi littéralement comme un frère. Depuis Apollinaire, en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Pourquoi ce chemin plutôt que cet autre? Où mène-t-il pour nous solliciter si fort? Quels arbres et quels amis sont vivants derrière l'horizon de ces pierres dans le lointain miracle de la chaleur? Nous sommes venus jusqu'ici car là où nous étions, ce n'était plus possible. On nous tourmentait et on allait nous asservir. Le monde de nos jours est hostile au transparent. Une fois de plus, il a fallu partir. Et ce chemin qui ressemblait à un long squelette nous a conduit à un pays qui n'avait que son souffle pour escalader l'avenir. Comment montrer sans les trahir les choses simples dessinées entre le crépuscule et le ciel? Par la vertu de la vie obstinée, dans la boucle du temps artiste, entre la mort et la beauté. Ces quelques lignes sont signées René Char. Et elles inaugurent un livre qu'il a écrit avec Albert Camus dans les années 50, La postérité du soleil. Dans cet ouvrage, il est question du Vaucluse, une région que les écrivains chérissaient et qui se révèle au lecteur grâce aux photographies d'Henriette Grinda. Mais derrière le paysage se cache l'amitié de deux hommes qui étaient l'un pour l'autre des frères d'espoir. Le destin les a brutalement séparés le 4 janvier 1960 lorsque Camus meurt dans un accident de voiture. 15 ans auparavant, Char découvrait Camus. Le poète est à l'époque dans le maquis de Cérès, engagé dans la résistance, et il se fait appeler Capitaine Alexandre. Un jour, on lui tend un livre. C'est L'étranger. Char le lit, mais passe à côté du chef-d'œuvre. Il faudra attendre quelques années pour qu'il reconnaisse en Camus un compagnon, presque un double, et surtout qu'il le rencontre. Les prises de position politiques, le combat humaniste, l'amour des mots et bien sûr des femmes, tout rapproche ces deux esprits libres et révoltés. Ce soir, nous plongeons dans leurs univers respectifs à la découverte de leurs correspondances et de leurs textes. Et pour m'accompagner sur cette terre du Midi, j'ai le plaisir d'accueillir un professeur de philosophie et lecteur passionné qui prépare actuellement un dictionnaire amoureux d'Albert Camus aux éditions Plon, Raphaël Antoven. Bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Tout commence, ou presque, le 1er mars 1946. Camus a 33 ans, Char 39. Le premier est connu de la scène littéraire grâce à sa pièce Caligula, mais aussi à son roman L'étranger. De son côté, Char a déjà publié Le marteau sans maître et, pendant la guerre, il a écrit Les feuillets d'hypnose, un manuscrit que Camus lit avec intérêt. En voici un court extrait.
Il ne faudrait pas aimer les hommes pour leur être d'un réel secours. Seulement, désirer rendre meilleure telle expression de leur regard lorsqu'ils se posent sur plus appauvris qu'eux, prolonger d'une seconde telle minute agréable de leur vie.
La simplicité de ces aphorismes et la beauté mystérieuse de ce bref recueil le charment.
Vie qui ne peut ni ne veut plier sa voile. Vie que les vents ramènent fourbue à la glu du rivage, toujours prête cependant à s'élancer par-dessus l'hébétude. Vie de moins en moins garnie, de moins en moins patiente. Désigne-moi ma part, si tant est qu'elle existe, ma part justifiée dans le destin commun, au centre duquel ma singularité fait tache, mais retient l'amalgame.
Camus décide donc de publier ce texte dans la collection Espoir, chez Gallimard, une collection qu'il dirige depuis peu de temps. Les deux hommes ne se sont encore jamais rencontrés, mais ils s'écrivent déjà. Voici la première lettre que Char adresse à Camus, le 1er mars 1946 donc. Cher monsieur, je serai heureux d'une occasion qui nous permettrait de nous rencontrer. J'aurai plaisir à vous dire mon accord total avec votre pièce Caligula, outre la sympathie que j'éprouve pour vous, René Char.
Cher monsieur, Moi aussi, je serais content de vous voir. Je pars en voyage la semaine prochaine. Est-ce que cela vous ennuierait de passer un matin à 11h à la NRF cette semaine? Si vous n'en avez pas envie, gardons la même heure et fixez-moi par pneu le lieu et le jour. Merci en tout cas d'avoir bien voulu figurer dans ma collection. J'aimais beaucoup ces feuillets d'hypnose. À bientôt donc. Et croyez à ma sympathie, Albert Camus.
Et la rencontre a lieu comme prévu dans les locaux de la maison d'édition. René Char en fera le récit dans la postface du livre « La postérité du soleil ». Le texte s'intitule « Naissance et jour levant d'une amitié » et revient notamment sur l'un de leurs premiers voyages dans le sud de la France, à l'Isle-sur-Sorgue, là où Char possède une maison. Camus arriva un matin. J'allais le chercher en gare d'Avignon. Ce devait être dans l'automne 1946. La belle animation de la fin de la guerre durait encore, quoique légèrement abaissée. Les rapports entre les gens qui s'étaient connus pendant la résistance restaient chaleureux, empreints du besoin de se retrouver, peut-être plus de se voir que de se parler, de respirer l'air nouveau, d'en étaler la liberté. Nous nous rencontrâmes dans un vieil hôtel d'Avignon qui jouxte les remparts, l'Hôtel d'Europe. J'avais là plusieurs camarades. Je présentais Camus à chacun et tout de suite il fut de plein pied avec eux, sachant dire et écouter avec l'enjouement ailé ou réfléchi qui était le sien. Il ne faisait pas effort pour briller ou capter l'attention. Beauté et bonté de son silence qui ne contrariait point le côté excessif des récits que ces grands adultes répétaient pour la centième fois. Le repas achevé, nous partîmes pour l'île. Je sentis à la vue de ces montagnes, le Luberon, les Alpilles, le Ventoux qui entoure la plaine de l'Isle-sur-Sorgue, je compris à l'expression des yeux de Camus, à l'exubérance qui les éclaira, qu'il touchait à une terre et à des êtres au soleil jumeau qui prolongeait avec plus de verdure, de coloris et d'humidité la terre d'Algérie à laquelle il était si attaché. Plusieurs personnes l'accueillirent, le reçurent, le fêtèrent. Et moi qui l'observais avec quelque méfiance, lorsqu'on partage avec autrui de récentes sympathies, je m'aperçus que ce qui m'avait prévenu favorablement, dès l'abord, vraiment ici prenait tout son sens. Une simplicité tantôt ironique et grave, le geste délié sans excès, une mesure non recherchée, une discrétion subite dans les échanges, au seuil d'une confiance prématurée, faisait que cet homme n'était jamais un étranger parmi les autres, un importun à peine dessiné. L'étranger est celui qui se présente sans parler le premier, à des êtres qui ignorent tout de lui et désirent apprendre, et qui saura tout sans souhaiter trop savoir. Camus resta plusieurs jours et loua par la suite une maison qui s'appelait Palerme, grande maison de campagne dont le propriétaire s'était tué récemment en automobile. Il la loua 3 années durant et nous eûmes le loisir d'approfondir et d'étendre nos échanges. Hors de toute anecdote nous donnant de beaux rôles, nous ne forçâmes pas notre nature à nous faire accepter, à pousser des feux. Plus tard, filant ses souvenirs, Camus et moi nous plaisions à trouver que c'était certainement une chance que nous nous soyons approchés l'un de l'autre, puis affectionnés dans les meilleures conditions. Celle où la lenteur heureuse est promesse de durée, où la connaissance de soi se fait à l'insu de chacun.
Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul.
Le 10 juin 1947, La Peste paraît aux éditions Gallimard et ne tarde pas à devenir un succès public et critique. Camus en dédicace un exemplaire à René Char et lui offrira même quelques pages manuscrites du roman avec ses mots écrits au dos.
À René Char, qui aide à vivre en attendant notre royaume, son ami et son frère d'espoir, Albert Camus.
L'action du roman se déroule dans les années 40 à Oran, une ville ordinaire et sans soupçon. Un matin, le médecin Bernard Rieux bute sur un rat mort. On croit d'abord à une farce, mais bientôt c'est la stupéfaction. L'état de peste est déclaré, la ville fermée, et le contact avec l'extérieur devient impossible. Les habitants s'organisent donc pour contrer l'épidémie, et dans cette tâche, le médecin Rieux est aidé par Tarou, responsable du dispositif sanitaire. Un soir, ce jeune homme va raconter à Rieux son passé de révolutionnaire et le combat qu'il a voulu mener pour créer une société plus juste. Voici un extrait de la quatrième partie de La Peste, un texte qui parle d'engagement mais surtout d'amitié. Il fait bon, dit Rieux en s'asseyant. C'est comme si la peste n'était jamais montée là. Tarou lui tournait le dos et regardait la mer.
Oui,
dit-il après un moment.
Il fait bon.
Il vint s'asseoir auprès du docteur et le regarda attentivement.
Rieux,
dit Tarou sur un ton très naturel.
Vous n'avez jamais cherché à savoir qui j'étais? Avez-vous de l'amitié pour moi?
Oui, répondit le docteur, j'ai de l'amitié pour vous. Mais jusqu'ici, le temps nous a manqué.
Bon, cela me rassure. Voulez-vous que cette heure soit celle de l'amitié?
Pour toute réponse, Rieux lui sourit.
Eh bien voilà,
commença Tarou.
Disons, pour simplifier, que je souffrais déjà de la peste bien avant de connaître cette ville et cette épidémie. C'est assez dire que je suis comme tout le monde. Mais il y a des gens qui ne le savent pas ou qui se trouvent bien dans cet état, et des gens qui le savent et qui voudraient en sortir. Moi, j'ai toujours voulu en sortir. Quand j'étais jeune, je vivais avec l'idée de mon innocence, et puis un jour, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, il faut vous dire que je n'étais pas pauvre comme vous. Mon père était avocat général. Et aujourd'hui qu'il est mort, je me rends compte que s'il n'a pas vécu comme un saint, il n'a pas été non plus un mauvais homme. Il tenait le milieu, voilà tout. Et c'est le type d'homme pour lequel on se sent une affection raisonnable, celle qui fait qu'on continue. Quand j'ai eu 17 ans, mon père m'a invité à aller l'écouter. Il s'agissait d'une affaire importante en cour d'assises et certainement, il avait pensé qu'il apparaîtrait sous son meilleur jour. J'avais accepté parce que cela faisait plaisir à mon père. Je n'ai pourtant gardé de cette journée qu'une seule image, celle du coupable. Je crois qu'il était coupable en effet, il importe peu de quoi. Mais ce petit homme paraissait si décidé à tout reconnaître, si sincèrement effrayé par ce qu'il avait fait et ce qu'on allait lui faire, qu'au bout de quelques minutes, je n'eus plus Dieu que pour lui. Quelque chose me serrait le ventre. Je n'écoutais presque rien, je sentais qu'on voulait tuer cet homme vivant et un instinct formidable comme une vague me portait à ses côtés avec une sorte d'aveuglement entêté. Je ne me réveillais vraiment qu'avec le réquisitoire de mon père. Transformé par sa robe rouge, sa bouche grouillait de phrases immenses qui sans arrêt en sortaient comme des serpents. Et je compris qu'il demandait la mort de cet homme et qu'il demandait même qu'on lui coupât le cou. Il disait seulement « Cette tête doit tomber !» À partir de ce jour, je m'intéressais avec horreur à la justice, aux condamnations à mort, aux exécutions, et je constatais avec un vertige que mon père avait dû assister plusieurs fois à l'assassinat et que c'était les jours où justement il se levait très tôt. J'avais le cœur malade. Un soir, mon père me demanda son réveil parce qu'il devait se lever tôt, je ne dormis pas de la nuit. Le lendemain, quand il revint, j'étais parti. J'ai connu la pauvreté à 18 ans, au sortir de l'aisance. J'ai fait 1000 métiers pour gagner ma vie, mais ce qui m'intéressait, c'était la condamnation à mort. En conséquence, j'ai fait de la politique, comme on dit. Je ne voulais pas être un pestiféré, voilà tout. J'ai cru que la société où je vivais était celle qui reposait sur la condamnation à mort, et qu'en la combattant, je combattrais l'assassinat. Je me suis donc mis avec les autres que j'aimais et que je n'ai pas cessé d'aimer. Un jour, j'ai vu une exécution. Et le même vertige qui avait saisi l'enfant que j'étais a obscurci mes yeux d'homme. Je n'ai pas bien dormi depuis ce temps-là. J'ai compris que je n'avais cessé d'être un pestiféré pendant toutes ces longues années où pourtant, de toute mon âme, je croyais lutter justement contre la peste. J'ai appris que j'avais indirectement souscrit à la mort de milliers d'hommes. J'ai appris cela, que nous étions tous dans la peste et j'ai perdu la paix. Je la cherche encore aujourd'hui, essayant de les comprendre tous et de n'être l'ennemi mortel de personne. Je sais seulement qu'il faut faire ce qu'il faut pour ne plus être un pestiféré, que chacun la porte en soi, la peste, parce que personne, non personne au monde n'en est indemne. Et qu'il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené dans une minute de distraction à respirer dans la figure d'un autre et à lui coller l'infection.
Après un silence, le docteur se souleva un peu et demanda si Tarou avait une idée du chemin qu'il fallait prendre pour arriver à la paix.
Oui, la sympathie.
Puis Tarou continua.
En somme, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint.
Mais vous ne croyez pas en Dieu, intervint Rieux.
Justement. Peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui.
Brusquement, une grande lueur jaillit et une clameur obscure parvint jusqu'aux deux hommes.
On s'est encore battu.
C'est fini maintenant, dit Rieux. Tarou murmura que ce n'était jamais fini et qu'il y aurait encore des victimes, parce que c'était dans l'ordre. « Peut-être, répondit le docteur. Mais vous savez, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. Je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme. »
« Oui, nous cherchons la même chose. Mais je suis moins ambitieux. »
Le vent se levait, Tarou se secoua.
« Savez-vous ce que nous devrions faire pour l'amitié ? Prendre un bain de mer. Même pour un futur saint, c'est un plaisir digne. Et puis à la fin, c'est trop bête de ne vivre que dans la peste. »
« Oui, dit Rieu. Allons-y. » Un moment après, l'odeur de l'iode et des algues leur annonça la mer. Ils se déshabillèrent. Rieu plongea le premier. Un lourd clapotement lui apprit que Tarou avait aussi plongé. Rieu se mit sur le dos et se tint immobile, face au ciel renversé, plein de lune et d'étoiles. Pendant quelques minutes, ils avancèrent avec la même cadence et la même vigueur, solitaires, loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste. Puis, habillés de nouveau, ils repartirent sans avoir prononcé un mot. Mais ils avaient le même cœur, et le souvenir de cette nuit leur était doux. Quand ils aperçurent de loin la sentinelle de la peste, Rieu savait que Tarou se disait, comme lui, que la maladie venait de les oublier, que cela était bien, et qu'il fallait maintenant recommencer. Le 22 juin 1947, René Char a fini sa lecture du livre et s'empresse d'écrire à son ami. Cher Albert Camus, ceux qui se plaisent à nommer les trous de murs décorés de barreaux, les routes de l'avenir et leur cœur de chien dent, l'artère de l'homme, après la peste, ne feront plus guère illusion. Vous avez écrit un très grand livre. Les enfants vont pouvoir à nouveau grandir, les chimères respirer. Les excusés redeviendront indifférents. Notre temps a bien besoin de vous. Je vous envoie toute mon admiration affectueuse. René Char.
Cher René Char, j'ai été bien content de votre lettre. Il y a peu d'hommes aujourd'hui dont j'aime à la fois le langage et l'attitude. Vous êtes de ceux-là. Le seul poète aujourd'hui qui ait osé défendre la beauté, le dire explicitement, prouver qu'on peut se battre pour elle en même temps que pour le pain de tous les jours. Vous allez plus loin que les autres, n'ayant rien exclu. Vous gardez toujours ma fraternelle pensée. Albert Camus.
What happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe. And there's something in the drinking water. The sun comes up. The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. In every single way, but not for you. World citizen. World citizen. It's not safe. All the yellow birds are sleeping, 'cause the air's not fit for breathing. It's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be? Citizen. World citizen. And if I stop and talk with you a while, I'm overwhelmed by the scale of everything you feel. Lonely inner state, emergency. I want to feel until my heart can take no more. And there's nothing in this world I wouldn't give. I want to break the indifference of the days. I want a conscience that will keep me wide awake. I won't be disappointed. She doesn't love. We've gone from comedy to commerce, and she doesn't feel the ground she walks upon. I turn away, and I'm not sleeping well at night. And while I know this isn't right, what can you do?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
René Char.
La chambre dans l'espace, tel le chant du ramier quand l'averse est prochaine. L'air se poudre de pluie, de soleil revenant. Je m'éveille lavé, je fonds en m'élevant, je vendange le ciel novice. Allongé contre toi, je meus ta liberté. Je suis un bloc de terre qui réclame sa fleur. Est-il gorge menuisée plus radieuse que la tienne? Demander, c'est mourir. L'aile de ton soupir met un duvet aux feuilles. Le trait de mon amour ferme ton fruit, le bois. Je suis dans la grâce de ton visage que mes ténèbres couvrent de joie, comme il est beau ton cri qui me donne ton silence.
Camus rend souvent visite à Charles dans le sud de la France. Les deux hommes marchent ensemble dans les plaines et contemplent la lumière. Ils continuent aussi de lire leurs œuvres respectives. Voici une lettre que Charles écrit le 4 octobre 1947. Mon cher ami, j'ai été triste de vous voir partir. Je vous le dis. Il est des rencontres fertiles qui valent bien des aurores. Elles, au premier chef, simplifient et allègent l'entente avec soi-même. Le mythe de Sisyphe me tend son rocher bleu. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Oui, c'est cela. Cette phrase donne à respirer, donne à prendre. Voilà notre oreiller pour gens actifs. Revenir de tout l'avenir au présent et le garnir de son espoir, même jamais réalisé. Dites à Francine Camus, ma sympathie amicale, et croyez-moi de tout cœur, à vous, en chaude pensée, René Char. Septembre 1948, René Char publie « Fureur et mystère ». Camus lit le recueil avec ardeur.
Rien ne m'obsède que la vie. Étincelle nomade qui meurt dans son incendie. Aime, riveraine, dépense ta vérité. L'herbe qui cache l'or de ton amour ne connaîtra jamais le gel. Sur cette terre des périls, je m'émerveille de l'idolâtrie de la vie. Que ma présence qui vous cause énigmatique malaise, haine sans rémission, soit météore dans votre âme. Un chant d'oiseau surprend la blanche du matin.
Il écrit sans attendre à René Char.
Mon cher ami, un mot seulement pour vous dire ma joie et pour vous redire que c'est le plus beau livre de poésie de cette malheureuse époque. Avec vous, le poème devient courage et fierté. On peut enfin s'en aider pour vivre. À bientôt, Albert Camus.
Le 17 août 1949, René Char s'est séparé de sa femme Georgette, son amour de jeunesse. Il vient également de mettre un point final à l'écriture de son recueil « Les matinaux ». Et il continue d'échanger des lettres avec Camus, notamment au sujet de l'amour. Mon cher ami, l'été a une belle vieillesse ici. Il continue à traverser, à parcourir les champs, son bâton feuillu à la main. Mais quelle tristesse, mais quelle angoisse magnétique dans l'air et sur les choses. Les êtres, eux, se font simplement mal. C'est toujours l'aurore pour les plaies. Aimer, ne pas aimer. Quel long vertige. Et on ne peut rester jamais deux, dès que l'on est définitivement deux. Les autres, la morale, ce foyer déjà bâti que rien n'autorise à défaire que son propre plaisir. Est-ce suffisant? On ne sait plus. On dure. J'ai envoyé à Gaston Gallimard les Matinaux aujourd'hui. La seconde partie de ce livre m'a beaucoup coûté. Elle est récente, elle contient l'expérience à laquelle je fais allusion plus haut. Je serais heureux que vous la lisiez avec les yeux du cœur qui sont vos yeux, avant que les imprimeurs ne s'en mêlent. Si je n'avais craint de vous déranger, je vous aurais adressé le manuscrit directement à vous. Je n'ai pas osé. Je vous prie de dire mon amitié à Francine et d'embrasser les enfants. Affectueusement à vous, René Char.
Mon cher René, oui, je crois comprendre et je suis avec vous. La vérité est qu'il faut rencontrer l'amour avant de rencontrer la morale, ou sinon les deux périssent. La terre est cruelle. Ceux qui s'aiment devraient naître ensemble, mais on aime mieux à mesure qu'on a vécu, et c'est la vie elle-même qui sépare de l'amour. Il n'y a pas d'issue, sinon la chance, l'éclair ou la douleur. Les Matinaux vous grandissent encore. Vous avancez avec certitude sur ce chemin-là, du moins vous n'hésitez jamais. Tout porte fruit pour vous, un des rares créateurs d'aujourd'hui. Je vous écris du lit, une rechute de ma vieille maladie. 6 semaines à l'horizontale et puis ce seront des mois de montagne. Le retranchement est difficile, j'ai passé l'âge du rêve. Et puis, mon effort constant a été de repousser la solitude, la différence, l'intime. Je voulais être avec. Mais il y a une destinée, c'est là ma seule croyance, et pour moi, elle est dans cette lutte où rien n'est facile. Je vous écris comme à mon ami et à mon frère. Mais ne me croyez pas trop triste, vous savez que j'ai de la philosophie. Je fais des vœux pour vous, les vœux les plus chaleureux, et j'appelle la chance sur vous. À bientôt, avec toute mon affection, Albert Camus.
Septembre 1950. Mon cher Albert, votre lettre était mieux qu'une lettre. Je trouve la tournure que prennent les échanges avec les êtres qui se sont reconnus et choisis vraiment comme cordes abandonnées dans un champ. Les nœuds sont à la merci du chien-dent et des caprices de la température. Je ne savais pas où vous trouver, ne serait-ce que pour vous jeter un de ces regards de compagnon taciturne mais affectueux. Ne croyez pas que votre éloignement soit accepté légèrement. Bien sûr, loin de moi de vouloir souligner la marque des espaces et des blancs qui jalonnent toute amitié sérieuse. Enfin, vous voici. Cher Albert, si vous venez dans le midi, je vous prie, faites-moi signe. Je suis votre ami de tout cœur, René Char. 25 février 1951.
Mon cher René, je ne vous oublie pas. Mais depuis un mois, je suis enfoncé dans un travail ininterrompu. La totale solitude et la volonté d'en finir font que je reste 10 heures par jour à ma table. J'espère avoir fini vers le 15 mars. Mais l'accouchement est long, difficile, et il me semble que l'enfant est bien laid. Cet effort est exténuant. À bientôt donc, et d'ici là, je vous serre la main, très affectueusement. Albert Camus.
Le travail qu'il occupe ainsi, c'est l'homme révolté qu'il finit d'écrire en juillet de la même année. Après l'absurde, Camus se penche sur la révolte, donc, et la question de sa valeur.
La révolte, comme toutes les... comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale.
Voici un extrait du chapitre 5 de son essai « La pensée de midi ».
La mesure n'est pas le contraire de la révolte. C'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. L'origine même de cette valeur nous garantit qu'elle ne peut être que déchirée. La mesure, née de la révolte, ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence. Elle ne triomphe ni de l'impossible, ni de l'abîme, elle s'équilibre à eux. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme, à l'endroit de la solitude.
Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages, mais notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde, elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. La révolte, la séculaire volonté de ne pas subir dont parlait Barrès, aujourd'hui encore, est au principe de ce combat. Mère des formes, source de vraie vie, elle nous tient toujours debout dans le mouvement informe et furieux de l'histoire.
Et voici ce que Char écrit à Camus après avoir fini sa lecture. « Mon cher Albert, après avoir lu et relu votre homme révolté, j'ai cherché qui et quelle œuvre de cet ordre le plus essentiel avait pouvoir d'approcher de vous et d'elle en ce temps. Personne et aucune œuvre. C'est avec un enthousiasme réfléchi que je vous dis cela. Ce n'est pas dans le carré blanc d'une lettre que le volume, les lignes et l'extraordinaire profonde surface de votre livre peuvent être résumés et proposés à autrui. D'abord, j'ai admiré à quelle hauteur familière vous vous êtes placé pour dévider votre fil de foudre et de bon sens. Quel généreux courage, quelle puissante et irréfutable intelligence tout au long. Ah, cher Albert, cette lecture m'a rajeuni, rafraîchi, raffermi, étendu. Merci. Votre livre marque l'entrée dans le combat, dans le grand combat intérieur et externe aussi des vrais, des seuls arguments. Vous n'êtes jamais naïf. Vous pesez avec un scrupule. Cette montagne que vous élevez, édifiée tout à coup, refuge et arsenal à la fois, support et tremplin d'action et de pensée, nous serons nombreux, croyez-le, sans possessif exagéré, à en faire notre montagne. Nous ne dirons plus « il faut bien vivre puisque », mais cela vaut la peine de vivre parce que... Vous avez gagné la bataille principale, celle que les guerriers ne gagnent jamais. Comme c'est magnifique de s'enfoncer dans la vérité. Je vous embrasse. René Char.
Cher René, je le ressens de plus en plus, malheureusement. D'avoir expulsé ce livre m'a laissé tout vide et dans un curieux état de dépression aérienne. Et puis, une certaine solitude. Mais ce n'est pas à vous que je peux apprendre cela. J'ai beaucoup pensé à notre dernière conversation, à vous, à mon désir de vous aider. Mais il y a en vous de quoi soulever le monde. Simplement, vous recherchez, nous recherchons le point d'appui. Vous savez du moins que vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Ce que vous savez peut-être mal, c'est à quel point vous êtes un besoin pour ceux qui vous aiment et qui, sans vous, ne vaudraient plus grand-chose. Je parle d'abord pour moi, qui ne me suis jamais résigné à voir la vie perdre de son sens et de son sang. À vrai dire, c'est le seul visage que j'ai jamais connu à la souffrance. On parle de la douleur de vivre, mais ce n'est pas vrai. C'est la douleur de ne pas vivre qu'il faut dire, et comment vivre dans ce monde d'ombre. Sans vous, sans deux ou trois êtres que je respecte et chéris, une épaisseur manquerait définitivement aux choses. Il y a si peu d'occasions d'amitié vraie aujourd'hui que les hommes en sont devenus trop pudiques parfois. Et puis, chacun estime l'autre plus fort qu'il n'est. Notre force est ailleurs, dans la fidélité. C'est dire qu'elle est aussi dans nos amis et qu'elle nous manque en partie s'ils viennent à nous manquer. C'est pourquoi aussi, mon cher René, vous ne devez pas douter de vous, ni de votre œuvre incomparable. Ce serait douter de nous aussi et de tout ce qui nous élève. Cette lutte qui n'en finit plus, cet équilibre harassant nous unissent quelques-uns aujourd'hui. La pire chose, après tout, serait de mourir seul et plein de mépris. Et tout ce que vous êtes ou faites se trouve au-delà du mépris. Très affectueusement à vous, Albert Camus.
« 29 octobre 1953. Cher Albert, le bel arc-en-ciel de vos livres fait ma joie. Ensemble, ils miroitent entre le jour et la lampe, comme une truite de la sorgue entre gravier et cresson. Merci. Je vous envoie, parce que c'est bien qu'il soit avec vous, le manuscrit d'un poème fait cet été. Vous connaissez le lieu où il est situé. C'est un peu enfant, peut-être, mais comment se rafraîchir et s'innocenter autrement? Il faut parfois revenir sur le passé et s'en couvrir comme d'un drap léger. Toute mon affection, René Char. Le poème qu'il envoie à Camus a pour titre « Le deuil des névons » et il fait aujourd'hui partie du recueil « La parole en archipel ». Char se souvient du lieu où il a grandi, cette grande maison familiale dont il se retrouve dépossédé à la mort de sa mère en 1951. La propriété sera finalement détruite. Le temps d'un long poème, René Char veut retrouver un peu de ce temps disparu. Ah, lointain est cet âge, que d'années à grandir, sans père pour mon bras. Tous ces dons répandus, la rivière chérie, subvenait aux besoins. Peupliers et guitares ressuscitaient au soir pour fêter ce prodige où le ciel n'avait part. Un faucheur de prairies s'élevant, se voûtant, piquait les hirondelles sans fin silencieux. Sa quille retenue au limon de l'îlot, une barque était morte. L'heure entre classe et nuit, la ronce les serrant, des garnements confus couraient, cruels et sourds. La brume les sautait de glace et maternelle. Sur le bambou des jungles, ils étaient modelés, chers roseaux voltigeants. Le bien qu'on se partage, volonté d'un défunt, a broyé et détruit la pelouse et les arbres, la paresse endormie, l'espace ténébreux de mon parc des névons. Puisqu'il faut renoncer à ce qu'on ne peut retenir, qui devient autre chose contre ou avec le cœur, l'oublier rondement, puis battre les buissons pour chercher sans trouver ce qui doit nous guérir de nos maux inconnus que nous portons partout.
Cher René, merci sans attendre de ce très beau poème dont j'aime l'émotion légère et profonde. Oui, renoncer à l'enfance est impossible. Et pourtant, il faut s'en séparer un jour, extérieurement au moins. Mais être un homme, subir d'être un homme et parfois aussi subir les hommes, quelle peine. Coïncidence, je pensais aussi ces derniers temps à Alger et à mon enfance. Mais j'ai grandi dans des rues poussiéreuses, sur des plages sales. La vie était dure chez moi et j'étais prodigieusement heureux la plupart du temps. Mais pourquoi vous dire tout cela? Votre poème m'a remué, voilà tout. Et je ne supporte pas bien ma vie en ce moment. À vous, de tout cœur, Albert Camus.
Les ruines de Tipaza, sur la côte algérienne, s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs, où la vie est odorante. Ce lieu, pour moi du moins, est toujours l'un des plus beaux du monde. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté, qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude, et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés. Je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'a empêché de désespérer. Et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, me suis évanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. celui qui peut croire. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis plus rien. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Nous arrivons en 1959. Camus rédige une préface à l'édition allemande des Poésies de Char, un texte dans lequel il déclare toute son admiration pour le poète qui a, selon lui, accompli une véritable révolution au sein de la littérature française.
La nouveauté de Char est éclatante. Ancienne et nouvelle, sa poésie combine le raffinement et la simplicité. Elle porte du même élan les jours et la nuit. Ce poète des insurgés n'a aucun mal à être celui de l'amour. Sa poésie y plonge, au contraire des racines tendres et fraîches. Tout un aspect de sa morale et de son art se résume dans la fière formule du poème pulvérisé « Ne te courbe que pour aimer ». Char, aux prises avec l'histoire la plus enchevêtrée, n'a pas craint d'exalter la beauté dont l'histoire, justement, nous donnait une soif désespérée. En plein combat, voici un poète qui a osé nous crier « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté ». Dès cet instant, face au nihilisme de son temps et contre tous les reniements, chaque poème de Char a jalonné une route d'espérance. Que demander d'autre à un poète aujourd'hui? Au milieu de nos citadelles démantelées, voici que par la vertu d'un art secret et généreux, la femme existe, la paix et la dure liberté. Char fait plus que nous exprimer, il est le poète de nos lendemains.
Je pleure quand le soleil se couche, parce qu'il te dérobe à ma vue, et parce que je ne sais pas m'accorder avec ses rivaux nocturnes. Bien qu'il soit au bas et maintenant sans fièvre, impossible d'aller contre son déclin, de suspendre son effeuillaison, d'arracher quelque envie encore à sa lueur moribonde. Son départ te fond dans son obscurité, comme le limon du lit se délaie dans l'eau du torrent, par-delà les boulis des berges détruites. Dureté et mollesse aux ressorts différents ont alors des effets semblables. Je cesse de recevoir l'hymne de ta parole. Soudain, tu n'apparais plus entière à mon côté. Ce n'est pas le fuseau nerveux de ton poignet que tient ma main, mais la branche creuse d'un quelconque arbre mort et déjà débité. On n'est plus un nom à rien qu'au frisson. Il fait nuit. Les artifices qui s'allument me trouvent aveugle.
Quelques semaines plus tard, Char rend visite à Camus dans sa maison de Lourmarin. Ils passent du temps ensemble et discutent de leur projet commun. Il s'agit de leur livre sur le Vaucluse, qui aura pour titre « La postérité du soleil ». Ils l'ont quasiment terminé, mais ne parviennent pas encore à trouver un éditeur. Et au moment de le quitter, Camus lance à Char
« René, quoi qu'il arrive, faites que notre livre existe ».
Et le pire, justement, arrive. Camus meurt quelques jours plus tard sur la route qui le ramenait à Paris.
Lourmarin, petit village de Provence posé au milieu des oliviers, a fait aujourd'hui de touchantes obsèques à Albert Camus, prix Nobel de littérature. C'est dans ce petit village entre deux fontaines à l'ombre du vieux clocher que Albert Camus avait découvert sa maison, son refuge, comme il l'appelait. Et ce matin, tout le village s'est joint au cortège des parents, des amis. Entre Lucien Camus, frère du disparu, et Gaston Gallimard, Madame Albert Camus. Il y avait là d'humbles paysans mêlés aux personnalités, à Emmanuel Robles, Jules Roy, Jean Grenier, René Char, Gabriel Audizio, Roger Maurice.
Je perds un frère choisi par moi, et non un frère donné par une mère aveugle. Écrira René Char à Edwin Engelbert, un galeriste suisse qui fera publier l'ouvrage en 1965. Voici pour conclure quelques extraits de ce texte qui parle de la nature, de lumière et d'espoir. Des vieux troncs de saule jaillissent des gerbes de branches fraîches. C'est le premier jardin du monde. À chaque aurore, le premier homme.
Le matin est radieux, la lumière pique. Renonce à ta visite, ils peuvent t'attendre et non ta joie.
L'énigme,
la plénitude.
D'autres après nous encore recevront sur cette terre le premier soleil, se battront apprendront l'amour et la mort, consentiront à l'énigme et reviendront chez eux en inconnu. Le don de vie est adorable.
Autour de l'arbre juvénile du hasard, de frêles moissons se préparent. Demain, oui, dans cette vallée heureuse, nous trouverons l'audace de mourir contents.
La lumière du Vaucluse, patrie de chars, se compose avec l'eau et le vent. Ce pays n'a pas la splendeur immobile et desséchante des plaines d'Afrique ou d'Espagne. Un vent royal irrigue son ciel, faisant retentir les combes du Luberon d'un bruit d'eau fraîche et tumultueuse. Une étrange et pure rivière, la Sorgue, aux flots verts et glacés, toujours parée de traînes fleuries, fait les terres somptueuses. Tout se mêle ici dans les forces naturelles, et c'est au nœud de cette claire contradiction, au point d'appui de la création même, que Char trouve son inspiration la plus mystérieuse, délivrant un à un ces esprits solaires qui brûlent et purifient l'ulcère du monde.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pistugia avec Manuel Couturier à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Un grand merci à vous, Raphaël.
Merci, Guillaume.
Je rappelle que vous préparez donc un dictionnaire amoureux d'Albert Camus aux éditions Plomb. La semaine prochaine, en ouverture d'un cycle de 3 émissions consacrées à Émile Zola, je vous invite à redécouvrir l'un de ses grands romans, La Curée. Bonne soirée.
Merci Guillaume Gallienne. À suivre après le journal La Vie d'un jeu, Daphné Roulier reçoit le médecin urgentiste Patrick Peloux.